Alors, Thomas Agori est responsable du numérique au Musée d'archéologie nationale et chef de projet de la collection Grands sites archéologiques du ministère de la Culture. Il combine recherche en archéologie sur le terrain et développement de projets numériques au service de la mémoire du passé et de sa transmission. Donc, Thomas est spécialiste de la photographie aérienne par cerf-volant et plus largement de l'acquisition 3D sur site archéologique ou patrimonial. Il est engagé dans différents projets de recherche en cours en France, dont la grotte Chauvet, et à l'étranger, Égypte. Donc, il est rentré d'Égypte cette nuit à 1h du matin. Éthiopie, péninsule arabique, etc. Donc, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement précieux pour le pilotage du secteur musée et patrimoine du projet ICAR. Donc, sa présentation s'intitule « Archéologie, truelle, algorithme et IA ». Un programme.
Merci beaucoup. Effectivement, l'exercice qui m'a été demandé de passer en revue et d'essayer de dresser, de tirer le fil en fait, qui nous mènerait du terrain archéologique au musée, compte tenu de la place et de l'endroit où on a organisé cette journée aujourd'hui, et de soulever un certain nombre de questionnements, de vous présenter aussi la façon dont cet établissement qui vous accueille aujourd'hui a été confronté et aujourd'hui confronté à des problématiques liées à l'IA dans un contexte beaucoup plus large. Donc pour débuter, je voulais évoquer l'importance justement de ce travail collectif et de cette notion d'intelligence humaine collective avant d'évoquer les questions d'intelligence artificielle. Et c'est particulièrement le cas dans le cas de missions archéologiques. Le travail de terrain, c'est un travail d'équipe. On peut parfois être spécialiste d'un sujet très, très spécifique, mais cette démarche s'inscrit sur le terrain avec un côté très pragmatique de mise en œuvre, mais également dans une perspective beaucoup plus longue de réflexion, de temps de recherche et de prolongement au-delà du temps passé sur le terrain. Et ça, il me semble que c'est une notion très importante. Et vous avez ici des images, alors là sur cette première partie, qui sont davantage liées aux recherches au sein de l'équipe de la grotte Chauvet. Un des constats qui est récurrent dans le domaine archéologique, c'est cette capacité que les archéologues ont à aller chercher dans des domaines et dans des disciplines différentes des solutions qui vont répondre à leurs besoins et à leurs enjeux. Qui est, c'est le propre même de cette discipline, celui de documenter de la façon la plus objective les vestiges que l'on est amené à étudier. Et en fait, je pense que c'est particulièrement pertinent de tirer cette notion et de l'appliquer à l'archéologie et notamment au numérique et actuellement aux questions d'intelligence artificielle. Parce qu'on constate, il y a quelques-uns de mes collègues dans l'équipe Chauvet dans la salle aujourd'hui, on constate que pour pouvoir développer des projets de recherche, cette question d'interdisciplinarité, de transdisciplinarité, enfin selon le mot que l'on souhaite employer, qui est souvent un vœu pieux dans les projets, elle passe aussi par cette expérience de terrain. On a eu la chance justement, et j'y reviendrai tout à l'heure, et certaines présentations aujourd'hui y reviendront, de pouvoir développer d'un point de vue méthodologique des solutions dans le domaine de la numérisation 3D, normalement en particulier d'éléments complexes, en ayant recours justement à l'intelligence artificielle. Et c'est vraiment ce dialogue qui a pu être noué, le fait de pouvoir faire venir des collègues informaticiens sur le terrain, leur expliquer nos contraintes. C'est particulièrement le cas à Chauvet. On a accès, on peut circuler sur à peu près 3% de cette grotte qui représente environ 8000 mètres carrés au sol. Et donc les contraintes sur site sont extrêmement importantes, d'autant plus compte tenu de l'enjeu patrimonial d'un site comme Chauvet. Donc ce dialogue, à mon sens, il commence sur le terrain et puis il peut évidemment mener à des prolongements. Sur ces questions méthodologiques, voici quelques, justement, on évoquait le cerf-volant. Il y a aussi du côté des archéologues une forme de pragmatisme. Vous êtes ici au Musée d'archéologie nationale, fondé à la demande de Napoléon III en 1862. Très tôt, on a eu ces liens avec d'autres disciplines. On peut citer par exemple le fait que les archéologues sont très tôt allés s'appuyer sur les compétences des cartographes, notamment du côté des militaires. C'est le cas notamment sur les fouilles d'Alice Saint-Reine, financées par Napoléon III. C'est le cas de la photographie. Très tôt, la photographie a été utilisée sur les chantiers archéologiques. Et c'est encore le cas, c'est-à-dire que les questions de numérisation 3D peuvent être faites par le biais de scanners, comme vous le voyez à droite sur cette image, par des systèmes de perches, mais aussi par drone quand c'est autorisé. Là, il se trouve que ces deux photos ont été prises la semaine dernière en Égypte, justement sur la carrière d'Albatre d'Atnoub, sur laquelle je travaille, et pour des questions d'organisation, d'administration, le drone n'est pas autorisé, le cerf-volant l'est parfois de façon très exceptionnelle, mais du coup, on a une forme d'adaptabilité pour aller chercher toutes les solutions possibles à notre disposition pour pouvoir documenter et numériser les sites sur lesquels nous travaillons. En l'occurrence, cette carrière d'Albâtre, elle est exploitée dès l'Ancien Empire jusqu'au Nouvel Empire. C'est un site assez exceptionnel du point de vue de l'histoire des techniques. Et donc, je trouvais aussi intéressant de faire ce lien par rapport à nos enjeux technologiques et informatiques à l'heure actuelle, puisqu'elles permettent d'étudier la façon dont les Égyptiens déplaçaient des blocs de pierre à une période contemporaine des pyramides. C'est une question qui est discutée et donne lieu à de nombreuses contributions depuis de très nombreuses années. Donc c'est un élément qui est intéressant. Mais c'est aussi un site qui s'inscrit dans des enjeux et dans des problématiques patrimoniales, puisque les opérations d'exploitation de cette carrière étaient menées dans le cadre d'expéditions qui donnaient lieu à des inscriptions sur parois, donc des gravures ou des peintures, notamment des peintures rouges, et qui sont aujourd'hui à l'air libre, donc menacées par justement l'érosion éolienne, l'exposition au soleil, et malheureusement par des dégradations humaines. Ça, c'est aussi un enjeu de cette numérisation. Et donc, ce travail de documentation s'inscrit aussi dans une démarche de patrimonialisation. Et là, c'est un élément aussi qui me semble extrêmement important à rappeler pour pouvoir mener une politique numérique autour de ces données culturelles qui sont particulièrement précieuses et indispensables si on souhaite développer des projets s'appuyant sur l'intelligence artificielle. On a aussi, nous, en tant qu'institution, en tant que chercheurs spécialisés dans le patrimoine, une forme de responsabilité dans la production de ces données, dans leur qualité. On a en archéologie, mais je pense que ça peut se décliner dans le domaine des monuments historiques, une forme de gradation dans la qualité des données, en considérant que le scanner, on entend même parfois parler de modèles vrais, de données vraies, parce que ça a été pris par le scanner. Un modèle 3D, selon ces méthodes d'acquisition, qu'il soit pris par cerf-volant, avec une perche ou avec un scanner, ces questions de résolution, elles doivent s'inscrire dans une démarche de vérification, de traitement de données, de vérification. Donc c'est une dimension qui me semblait importante à rappeler. Et puis je voulais évoquer aussi justement ces questions à la fois d'adaptation à des milieux très différents, de sites ouverts en Égypte au monde souterrain. J'aurais pu aussi évoquer évidemment le travail des collègues archéologues sous-marins qui travaillent et qui développent des méthodologies extrêmement poussées et qui vont eux aussi chercher du côté de l'ingénierie militaire, par exemple, pour développer des robots qui permettent d'intervenir sur des épaves à très grande profondeur. Mais donc, du coup, c'est cette versatilité, cette adaptabilité qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour travailler dans des milieux complexes, avec toujours à l'esprit une forme de vigilance par rapport au patrimoine que l'on étudie. Donc vous avez ici des exemples de la grotte du Mas d'Azil, donc cette très vaste grotte en Ariège. Et l'intérêt aussi par rapport au musée dans lequel vous vous trouvez à l'heure actuelle, c'est que c'est un site sur lequel nous conservons des collections dans le musée. Et donc c'est aussi intéressant de voir qu'un certain nombre de projets de recherche justement font le lien entre des fouilles anciennes sur le terrain et des collections de musées. Et cette notion et cette connexion et ce lien entre les collections et les sites dont ils proviennent sont absolument essentiels Et c'est un des enjeux du numérique de pouvoir créer et renforcer les liens entre ces éléments, voire de pouvoir traiter des données avec des masses très importantes par le biais de l'intelligence artificielle. À la grotte du Mas d'Asile, mais ça sera développé plus tard dans le cadre de la présentation d'Antoine Laurent, ça a été aussi un lieu, comme à Chauvet, de développement méthodologique, notamment, vous avez vu un scanner sur l'image précédente, des appareils photo pour la photogrammétrie, un système aérien, qu'il soit drone ou cerf-volant ou ballon pour des relevés aériens. S'agissant de la préhistoire, à peu près 80-90% du corpus est un corpus gravé, et on est sur des gravures qui sont souvent extrêmement fines, et dans une marge, dans une zone grise entre la lasergrammétrie et la photogrammétrie. Et justement, il y a une méthodologie qui s'applique particulièrement à ce type de surface, qui est la stéréophotométrie, donc qui va travailler à partir de la lumière. Voilà, ça sera l'objet d'une autre présentation ce matin. Et donc, on a eu tout un travail avec l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, justement. On les a amenés sur le terrain. Ils ont eu à se mettre en reptation dans cette galerie dont le plafond est gravé. Donc vous avez la photo en bas à gauche. Vous ne pouvez pas vous tenir debout dans la plupart de cette salle, mais le plafond est couvert de gravures. Et donc, voilà, les protocoles d'acquisition doivent aussi être adaptés à ce contexte de terrain. Et donc, ça, c'est vraiment un élément qui est très intéressant pour nous, archéologues, de pouvoir échanger avec des spécialistes d'informatique sur les protocoles, la façon dont les machines aussi travaillent, puisque une des particularités, c'est qu'on a nos méthodes, on a nos façons de travailler, mais les machines ont aussi un mode de fonctionnement qui leur est propre. Alors, il faut pas, enfin, pardon, la formule est un peu maladroite, mais en tout cas, on a besoin de créer un dialogue pour adapter et faire converger les problématiques, que les besoins soient communs et de trouver des solutions pour pouvoir y répondre. Un des exemples, dans le cadre d'acquisition stéréophotométrique, on nous demande de mettre une sphère dans la scène pour pouvoir calibrer la lumière. Je vous laisse imaginer la difficulté qu'il y a à pouvoir mettre une sphère, et encore là, dans la grotte du Mas d'Asile, la paroi est proche, mais à Chauvet, quand la paroi est à 7 mètres, voilà, placer une sphère, c'est juste pas possible, en fait. Donc on a dû travailler, et c'est l'objet de développement à l'heure actuelle, pour pouvoir travailler sur cette méthodologie en s'affranchissant de cette sphère. Donc voilà, ça c'est des exemples qui me semblent intéressants à rappeler. Je voulais aussi évoquer, donc au-delà des contraintes, justement, ces déclinaisons de matériaux, ces dispositifs que l'on amène sur le terrain, donc par exemple avec un dôme de RTI, mais du coup qui permet de faire des acquisitions stéréophotométriques qui permettent de générer des données 3D. Et puis le volet sur la droite avec ces jolies couleurs, c'est tout le volet multispectral, puisque c'est aussi tout un volet qu'il est très intéressant d'explorer pour des questions de caractérisation de pigments, d'analyse d'évolution de la paroi. Et donc ça, c'est un élément que l'on intègre au sein de l'équipe de recherche de la grotte Chauvet, de la grotte du Mas d'Asile, et qui se développe sur de nombreux terrains en Égypte, mais ailleurs. C'est vraiment un élément aussi qui est intéressant. Et en fait, donc ces dispositifs d'acquisition, on a pu créer un dialogue avec notre collègue Johan Boulard qui fait sa thèse actuellement au laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale, le LAMS, sur ces questions justement d'analyse multispectrale de parois de grottes ornées. Et on a pu travailler et combiner aussi ensemble nos méthodes pour faire en sorte que les données qui sont acquises dans ce cadre multispectral puissent être connectées aux données acquises par photogrammétrie, par lasergrammétrie, puisque ça, c'est aussi un des enjeux. Et là, je pense que c'est important de rappeler ces questions, et ça fait le lien avec la journée. On a donc ces différentes missions de terrain, qu'elles soient sur terre, dans les airs, sous les eaux, qui permettent d'étudier des sites emblématiques comme la grotte Chauvet que je présente ici. En plus, on a fêté les 30 ans de la découverte l'année dernière. Donc là, vous avez voilà, ces sites emblématiques du patrimoine mondial et de notre histoire qui font l'objet d'études et qui génèrent énormément de données. Vous avez ici, donc, les petits éléments bleus sont une petite partie de l'acquisition photogrammétrique sur ce grand panneau, cette paroi gauche de la salle du fond de la grotte Chauvet. Pour Chauvet, pour une salle, pour le modèle photogrammétrique d'une salle de Chauvet, c'est au minimum 20 000 photos qui sont générées. À l'échelle de la grotte, le scanner qui a été réalisé dans le cadre de la préparation de la réplique, c'est plus de 800 stations de scan. Enfin, en termes de données, on a aussi une forme de responsabilité à adapter nos méthodes pour faire preuve d'une forme de sobriété, si c'est possible, même si à l'échelle du monde et d'autres producteurs de données dans d'autres domaines, on est bien peu de choses, mais quand même. Donc on a cette volonté d'adapter la méthodologie à la problématique de production de données qui est absolument indispensable et l'élément préliminaire à tout projet impliquant de l'intelligence artificielle, puisque, mais ça sera l'occasion d'échanges aujourd'hui et de discussions, c'est vraiment ces données qui sont absolument clés, à condition qu'elles soient disponible, qu'elle soit de qualité, qu'elle soit fiable, et si on peut en plus être responsable. Donc là, c'est le concept de faire qui est extrêmement important. Mais ces questions de données produites, là, vous avez une mise à plat du relevé d'analyse qui a été produit à partir du modèle 3D du panneau de ces grands lions de la salle du fond. Donc ces données 3D deviennent des supports à la recherche. Et on a une tendance dans l'archéologie, c'est qu'on va dépenser une énergie considérable à produire des données 3D. Et puis la première action qu'on va faire depuis le logiciel de photogrammétrie, ça va être d'exporter une orthophoto pour de nouveau retravailler en 2D. Donc on a envie de dire, pourquoi ne pas travailler directement en 2D, hein, ça ferait économiser du temps. Et bon, passer cette présentation, cette expression un peu familière, en fait. Un des objectifs et un des enjeux à l'heure actuelle, c'est la question de la reprojection en fait, de ces données produites à partir des éléments 3D. C'est aussi derrière la question de l'évolution des métiers, c'est-à-dire que relever une paroi, ça s'inscrit dans une longue tradition et plutôt dans une tradition de relever en 2D. Et justement, les outils disponibles à l'heure actuelle permettent de raisonner et de travailler dans cette perspective. Donc on a cet axe de développement à la fois au sein de l'équipe de la grotte Chauvet, mais aussi au sein de celle de la grotte du Mas d'Asile, pour monter en compétences, pour aussi faire évoluer les outils à notre disposition. On a la chance d'avoir un outil open source, Blender, pour la 3D. Donc il y a des solutions, des outils qui permettent d'avancer dans cette perspective pour que ces données de recherche, qui sont très multiples, hein, des modèles numériques de surface, aux orthophotographies de sol qui s'intègrent dans les SIG, les systèmes d'information géographique, sont vraiment voilà, des éléments essentiels. Mais on a vraiment cette masse de données qu'il faut structurer, organiser pour pouvoir la rendre utilisable. Donc de ce terrain, avec toute sa diversité que je viens d'évoquer, on arrive au musée où on se trouve aujourd'hui, et donc où j'occupe la place de responsable du service du développement de la politique numérique, service créé en 2015, avec comme ambition de contribuer à la mise en place d'une stratégie numérique, hein, qui globalement a pour axes principaux de favoriser la remise en contexte. C'est bien compréhensible s'agissant d'objets archéologiques et par rapport à ce que j'évoquais à l'instant, mais aussi en aidant nos visiteurs à poser un regard différent sur les objets et donc à leur proposer des aides à la lecture à partir de ce que le numérique nous permet. Le service a pour mission de produire des dispositifs de médiation et de communication en lien avec nos collègues du service du développement culturel. On a, ça c'est une chance au sein du musée, la particularité de disposer encore d'un atelier de prise de vue Donc à la fois qui est historiquement un atelier de prise de vue photo, mais qui depuis 2015 est monté en compétences notamment sur les acquisitions 3D, qu'elles soient par lasergrammétrie, par photogrammétrie ou même par stéréophotométrie. Et donc on a la chance de pouvoir produire nos données, ce qui à l'heure actuelle est un élément non négligeable pour un établissement comme le nôtre. Quand on se positionne sur le terrain de la gouvernance des données, c'est vraiment un élément qui est important pour nous et qui nous permet de porter des projets à la fois méthodologiques, mais aussi d'être autonome dans la production d'un certain nombre de données, qu'ils soient liés aux expositions temporaires, aux prêts d'objets. De plus en plus, dans le cadre de prêts, on va nous demander aussi la mise à disposition de contenu 3D, mais aussi des supports de communication autour du site internet et des réseaux sociaux. Et par ailleurs, j'ai la responsabilité de la collection Grand Site Archéologique, donc cette collection du ministère de la Culture qui existe depuis plus de 30 ans maintenant. Hein, pour le numérique, on est presque dans une forme d'archéologie et qui a pour enjeu, pour objectif de rendre compte des résultats de la recherche. Donc historiquement, elle concerne les sites archéologiques français et depuis 2015, justement, elle s'étend aux recherches archéologiques françaises à l'étranger, avec notamment un volet consacré au patrimoine du Proche-Orient qui s'est concentré sur les sites menacés ou détruits du Proche-Orient suite au conflit en Irak, en Syrie, mais qui depuis s'est étendu et qui s'appuie sur la commission des fouilles portée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour dresser un panorama des activités françaises à l'étranger. Au sein du musée, et ça a fait le lien avec l'enjeu du programme ICAR, les questions de monde virtuel et d'immersion sont très fréquemment explorées. Vous le verrez peut-être, ou vous le savez peut-être déjà, je ne l'ai pas précisé, le musée est actuellement dans une phase de son histoire qu'il n'a jamais connue. Il est dans une rénovation en profondeur de son parcours de visite à la fois permanent et qui fait suite à une restauration du bâtiment. Vous avez encore peut-être vu des échafaudages. On est en train de travailler au futur escalier qui sera l'axe principal de circulation dans l'établissement. Et donc ces années passées, ces années en cours, parce que le projet va mettre encore de nombreuses années à aboutir, est l'occasion de travailler en expérimentation. Donc on a pu, donc avec Daphné Mavrocordatos, qui est dans l'équipe numérique que vous avez probablement croisée à l'entrée, qui est chef de projet numérique au sein de l'équipe que je dirige, on a pu mettre en place un atelier immersif avec donc un casque de réalité virtuelle autour de l'art pariétal. Le fait d'intégrer ces expériences immersives dans une séquence de médiation. Dans les expositions, dans les parcours permanents, on a parfois des casques qui sont ou des expériences qui sont totalement indépendantes du discours. Nous, ce qu'on voulait, c'était l'intégrer avec des présentations qui se font dans le cadre des journées, hein, des journées européennes de l'archéologie, des journées du patrimoine, mais qui se font aussi en hors les murs, notamment dans le cadre d'un partenariat avec le service des enfants malades à l'hôpital Necker pour aller auprès de publics empêchés et leur permettre d'en apprendre davantage sur l'art pariétal et au milieu de l'atelier de pouvoir plonger dans une visite virtuelle de la grotte de Lascaux, justement. Alors choisir un casque de VR tout blanc, tout beau, tout propre au milieu d'un atelier d'art pariétal où on invite le public à dessiner, graver en utilisant du pigment naturel, c'était pas forcément la meilleure idée, mais ça fonctionne très bien et les retours sont très positifs sur cette association et cette mutualisation d'une médiation humaine et d'une médiation numérique. Nous sommes engagés sur différents projets, notamment de visites virtuelles. Depuis 2015, nous produisons en interne des visites virtuelles de nos expositions. Et en fait, la façon dont se développent les mondes virtuels, qu'ils soient VR, AR ou XR, s'inscrivent dans une forme de continuité par rapport à ces logiques de visite virtuelle, en tout cas dans la narration ou dans le support de médiation, même si la grammaire de forme évolue et qu'on essaye de réfléchir à ces questions, justement à la façon dont on souhaite présenter les collections archéologiques dans un espace virtuel. Donc ça, c'est un élément qui se développe. On a aussi pu travailler en lien avec le service des musées de France qui a développé tout un ensemble de visites virtuelles des musées qui est disponible sur le site du ministère de la Culture. Et puis, on est engagé dans un projet qui se termine autour des mondes virtuels qui s'appelle le Métavers des musées, avec une vingtaine d'autres institutions. C'est un projet qui est d'une production de Manza Lab, donc sur un métavers qui fonctionne. On a proposé une partie sur le musée, et c'est un élément qui nous semble... Qu'il est très intéressant pour nous d'explorer, surtout dans la phase dans laquelle nous nous situons par rapport à la rénovation du musée, même si c'est un élément qui pose énormément de questions sur les usages justement de ces mondes virtuels, sur les questions d'interopérabilité des données. Et ça fait le lien avec au moins deux des projets du programme ICAR. Et justement, il va y avoir une journée qui va se tenir à Lille le 16 décembre autour du projet Comet, et qui va être l'occasion d'échanger sur ces questions justement d'interopérabilité des données. Nous, on se rend compte au sein du musée que tous ces éléments de production de contenu et de médiation numérique manquent cruellement d'interopérabilité. Nous, on voudrait pouvoir produire un jeu de données que l'on puisse connecter à une visite virtuelle en ligne, à une expérience VR sur casque in situ, sur un store. Et en fait, on se retrouve à doublonner, à reprendre, à refaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose et un axe qui, en plus du poids que ça représente et de la déclinaison, quelque chose sur lequel on souhaiterait vraiment, vraiment avancer. Et puis derrière, la question, c'est celle de l'usage de ce type d'expérience. Il y a des rapports et des éléments dont un qui vient d'être publié sur justement le numérique dans les musées par le... la référence m'échappe, mais je pourrais vous la communiquer. Et ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on a besoin de compléments et d'informations supplémentaires. Au sein du musée, maintenant, en ce qui concerne notre lien à l'intelligence artificielle et la façon dont on s'y est retrouvé confronté, était marqué par différentes étapes. Et c'est fait presque de façon naturelle. C'est-à-dire que c'était pas pour nous la volonté d'aller vers l'IA parce qu'il fallait aller vers l'IA. C'est des occasions qui sont venues à nous par rapport à des problématiques et dans le cadre de partenariats qui nous ont permis de nous appuyer et d'explorer un certain nombre de choses. Donc la première étape a été celle d'un projet porté par l'agence Affluence, donc dans le cadre des appels à projets services culturels numériques innovants, et de la problématique de l'analyse prédictive de visite. Lorsque l'on travaille dans un musée, on sait que le taux de visite varie selon tout un tas de critères, la météo, le calendrier scolaire, le calendrier politique, le calendrier sportif, la météo, je l'ai déjà dit. Enfin voilà, il y a tout un tas de critères qui sont... Et donc nous, on souhaitait explorer avec Affluence, qui a intégré ça dans son dispositif. Et du coup, on a été un des premiers musées à proposer cette solution. Et donc ça, c'était autour de 2017. Et l'intérêt, c'est qu'on s'est rendu compte qu'à l'époque, on partait sur une logique tout automatisée et qu'en fait, depuis, leur modèle et la logique a évolué avec justement beaucoup plus d'interactions d'actions humaines, on va dire. Le deuxième projet, alors qui actuellement s'appelle Anquise, qui se termine en 2026, mais qui fait suite à d'autres projets, Prévision, Netshare, sont une série de projets liés à la lutte contre le trafic de biens culturels. Malheureusement, effectivement, les trafiquants, donc sans faire référence à un événement récent, déploient beaucoup d'énergie, en tout cas, pour parvenir à leurs besoins. En plus, effectivement, des terrains directement concernés par la guerre, qui sont des sources de biens culturels issus directement de sites archéologiques, puisque c'est plus facile à vendre qu'un objet de musée qui, lui, est connu et référencé. Et donc, voilà, il y a un programme qui regroupe à la fois des compétences sur le domaine juridique, mais aussi sur le domaine patrimonial, qui associe les douaniers, la police, les professionnels des musées, sur justement des réponses, des solutions qui permettent d'optimiser les outils. Un douanier, quand il intervient lors d'une vérification, il a quelques minutes et il n'est pas spécialiste du patrimoine, et donc il a besoin d'une réponse directe, voire d'un contact direct avec un spécialiste qui va être en mesure de lui dire faites-moi une photo, envoyez-moi un détail de cet objet, que je vois si c'est un vrai, un faux, et que je vous dise d'où ils viennent. Et donc ça, il y a des systèmes de reconnaissance d'images. Et là, les douanes françaises, il y a un des outils qui a été développé, il y en a plusieurs, est actuellement utilisé par les douanes et fait appel à de la reconnaissance d'images et fonctionne très bien pour faciliter justement le travail de nos collègues de la police et de la douane. Nous travaillons en cours sur les questions de chatbot, et ça c'est un certain nombre, enfin, sur les aspects d'IA générative, mais on pourra y revenir, et aussi sur les guides de visite avec un prototype qui est en cours de développement. Une deuxième étude de cas, c'est celui du site du Roc aux Sorciers, qui est un abri sculpté magdalénien, donc il y a à peu près 14 000 ans, dont le plafond sculpté s'est effondré à peu près en mille morceaux et qui sont conservés dans les réserves du musée. Et la contrainte, c'est que ce puzzle géant a des fragments qui ont des états de surface qui sont différents ou parfois des lacunes. Et donc, on a travaillé dans le cadre d'une thèse qui a été soutenue en 2020 autour d'un remontage sémantique de fragments grâce à l'intelligence artificielle. C'était le projet qui s'appelle Archepus 3D et qui est un projet qui s'est poursuivi. Et ça, c'est aussi intéressant de montrer qu'on est dans une période où on a tendance à être dans une forme d'accélération. D'ailleurs, on parle de la journée d'accélération aujourd'hui, là où la recherche a besoin de temps et de s'inscrire dans le temps long la plupart du temps, même si ça n'empêche pas de... Voilà. Enfin, on a aussi besoin de faire comprendre à nos décideurs que même si on travaille sur des projets circonscrits parce qu'il faut se fixer des objectifs pour pouvoir les atteindre, on a aussi besoin d'une recherche et d'un temps plus long. Hein. On pourrait évoquer les questions de slow science et compagnie. Voilà, je pense qu'on est un certain nombre à partager cette idée. Et notamment sur le terrain du numérique, on a parfois l'illusion que c'est presque de la magie, alors que c'est loin d'être le cas. Donc, en tout cas, ce projet illustre, puisqu'il s'est poursuivi par un projet dans le cadre des projets d'investissement d'avenir 4 sur la numérisation des blocs, et actuellement dans le cadre d'un projet ANR qui s'appelle Magdala, je crois, donc qui est dirigé par Geneviève Pinson. Et concernant le musée, la coordination est assurée par Catherine Schwab, qui est la conservatrice en charge des collections du paléolithique et du mésolithique. Je passe rapidement, je l'ai évoqué tout à l'heure, sur les questions d'évolution méthodologique de numérisation, et ça sera l'objet de la présentation d'Antoine Laurent. Nous travaillons justement autour des questions d'apprentissage profond sur le relief, notamment les gravures et sur la reconnaissance de formes. Il faut savoir que sur les 30 000 ans du paléolithique, c'est à peu près les 10-12 mêmes animaux qui ont été représentés, alors avec des variations de style. Et donc la question de l'identification des traits et surtout de la chronologie relative des gravures sur des objets du paléolithique est particulièrement intéressante pour aider la recherche. Et donc là, ça concerne des fonds dans les collections du musée, mais aussi dans sur les sites, sur les parois. Et donc là, on a cette recherche. Alors pour l'instant, on arrive à l'intelligence, enfin la machine arrive à nous dire qu'un renne est un renne. Donc pour le moment, on est content, mais c'est déjà ça. Et on sent qu'on va pouvoir en apprendre davantage si en plus on y intègre des données sémantiques, évidemment. Ces éléments s'inscrivent aussi dans le développement de Meshroom, logiciel open source développé par Alice Vision, auquel nous avons contribué dans le cadre de grands sites archéologiques pour y intégrer des fonctionnalités utiles au monde du patrimoine, notamment les questions de géolocalisation, de géoréférencement, mais aussi les questions d'association quand on fait un objet avec la partie haute et la partie basse. Mais voilà, Antoine y reviendra tout à l'heure, je ne vais pas trop m'étendre. Et on a une autre étude de cas à l'heure actuelle sur les problématiques de numérisation, de numérisation sur les objets complexes, brillants, transparents. Et donc ça, c'est dans le cadre d'un partenariat, dans le cadre de la convention entre le ministère de la Culture et INRIA, sur les, justement le trésor de Taillac, en lien avec le musée d'Aquitaine. Voilà un petit peu pour évoquer ça, évoquer ces questions et essayer de dresser un panorama de la façon dont l'intelligence artificielle s'intègre dans des dans une dynamique beaucoup plus large au sein d'un musée d'archéologie aussi, mais en remontant jusqu'au terrain et au site archéologique eux-mêmes. J'ai mis un certain nombre de définitions ici. Voilà, vous êtes pour la plupart très très familiers de l'IA, mais il y a ces questions aussi de responsabilité justement juridique à la fois sur les données, mais aussi de prise en compte dans le cadre de la stratégie nationale. Donc on a voilà, il y a tout un contexte qui est extrêmement riche en ce moment, mais qui implique aussi de garder l'esprit et une forme de vigilance sur les nombreuses évolutions. Je voulais évoquer le numéro que vous connaissez probablement déjà de Culture et Recherche, donc qui est sorti, c'est l'avant-dernier numéro. Et donc là, je mets le sommaire pour évoquer un peu la variété et le panorama des problématiques sur le patrimoine plus largement. Vous avez ici les axes principaux, mais qui vont être globalement ceux qui vont être abordés aujourd'hui et qui vont être développés dans le cadre de la journée. De la journée de jeudi et vendredi qui est organisée par l'INRAP à Chartres. Et donc, je voulais terminer justement en évoquant les différents dispositifs et en invitant les intervenants ou éventuellement les personnes présentes à faire aussi remonter les actualités. On est tous inondés de mails, d'invitations, mais là on est tous présents ici, donc on peut-être aussi en discuter. Donc voilà, j'ai mis des choses un petit peu en vrac et sans mettre les dates, mais évidemment il y a les questions liées donc la journée IA du 6, il y a une journée organisée par le Conservatoire des données 3D à Marseille, il me semble, mais j'ai pas les dates. Et puis je vous ai indiqué aussi quelques projets. Il y a l'appel à projet intrapreneuriat intrapreneuriat de l'atelier numérique du service du numérique du ministère de la Culture, dont certains lauréats d'institutions sont présents ici, il me semble. Donc voilà, pour évoquer aussi ces dispositifs qui sont proposés. Et puis, d'ailleurs, notre collègue, voilà, il y avait aussi l'appel à projet transition numérique de la culture et appropriation de l'IA. Qui sera présente aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est là. Voilà. Donc, elle a levé la main ici. N'hésitez pas à échanger avec elle pour en savoir plus, même si vous en avez déjà probablement connaissance. On pourra trouver un moment pour en discuter. Je crois, oui, que j'arrive à la... Je n'ai pas trop débordé, mais il faut laisser un petit peu de temps pour les questions.
Très bien. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il une ou deux questions dans la salle ? Ça veut dire que c'était très clair. Et que...
peut-être juste le temps que... J'ai pas précisé aussi qu'on avait la chance, et j'en ai peu parlé, mais ça me semble vraiment essentiel sur la question de ces données. On a la chance d'avoir au sein du musée un service des ressources documentaires qui est dirigé par Corinne Jouisse-Barbelin, qui est très sensibilisée à la question justement de l'archivage numérique. Et ça, c'est vraiment précieux pour nous de pouvoir travailler avec nos collègues archivistes sur ces questions, notamment sur les questions de plans de classement, de nommage, en s'inscrivant dans la politique du ministère, en respectant la loi du patrimoine. Mais c'est vraiment extrêmement précieux de pouvoir développer ces projets avec ces compétences et ces collègues qui nous soutiennent et qui nous aident.